Ce que je vais faire là, c'est vous présenter une brève histoire de la science-fiction française. Parce que la SF, c'est un domaine qui est très vaste, hein. On parle non seulement de la littérature, mais il y a aussi la bande dessinée, le dessin animé, les séries télévisées, le cinéma, hein, beaucoup des grands films, des grands succès, c'est toujours le cinéma. Bon, alors là, je me contenterai uniquement, pour rester à peu près dans les temps, de ne parler que de la littérature de science-fiction en France. Bon, c'est déjà très difficile de poser même ce que recouvre le terme de science-fiction, hein. Le grand spécialiste de l'histoire de la SF, qui était Pierre Versin, dans son Encyclopédie de l'Utopie, alors que vous pouvez très vaguement distinguer, parce que j'ai bien peur que là, avec la luminosité, on puisse pas très bien voir les photos. Ben enfin, bon, donc dans son Encyclopédie de l'Utopie et de la science-fiction, qui est sortie en 72 et qui fait autorité, Versin donc englobait dans sa définition de ce qu'était la science-fiction les premiers mythes, les légendes de l'humanité, style Voyage de Gilgamesh, etc., les utopies de Cyrano de Bergerac ou de Jonathan Swift. Pour moi, le problème quelque part, c'est qu'ils ne contiennent pas de science, hein. À l'exception peut-être chez Swift de l'île volante de Laputa, mais pour le reste, il n'y a pas de science. Donc, pour moi, comme dans le terme science-fiction, il y a le mot science, et je considère que la science moderne, telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui, n'apparaît qu'avec les premiers expérimentateurs à la fin du XVIIIe siècle, hein. C'est Lavoisier, c'est Galvani, etc. Donc, pour moi, le point de départ de la science-fiction, le premier vrai roman de science-fiction, pour moi, c'est celui que vous connaissez tous, c'est celui de Mary Shelley, donc Frankenstein ou le Prométhée moderne, parce que là, c'est de l'expérimentation scientifique, on utilise l'électricité qui, à l'époque, est quelque chose, une grande découverte, etc. Et en plus de ça, c'est un roman qui, bien que paru en 1818, a marqué tous les esprits, hein, et en plus de ça, il faut reconnaître que le film de 31 avec Boris Karloff dans le rôle de la créature, tout le monde connaît cette image. En France, rien, hein, à l'époque, pour ainsi dire, il y a rien. Et vraiment, le point de départ de ce qu'on peut considérer comme la science-fiction française, c'est Jules Verne, hein, bien entendu. Donc, parce que avant, c'est la prépondérance plutôt du fantastique. Alors peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu, hein, le fantastique. Ça utilise les fantômes, les vampires, tous les êtres de légende, la magie. Le bon exemple de roman fantastique, c'est le Dracula de Bram Stoker. Donc, et la fantasy, qui est aujourd'hui un domaine très populaire, elle est plus centrée sur la magie. Les dragons, etc. C'est Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux. C'est Fritz Leiber avec Le Cycle des Épées, dont vous voyez là une des couvertures. Et au niveau fantasy, c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment. Là, ça serait trop nombreux et puis ça nous écarterait du domaine de la science-fiction. Mais enfin, vous avez par exemple un des grands auteurs français de fantasy qui est présent ici, c'est Claire Pagny-Alix, hein, avec sa réédition du Sang d'Hyra, où elle a créé un des univers les plus originaux de la fantasy moderne. Donc, bien sûr, toutes ces limites que je viens de vous exposer, elles sont très floues et souvent, y compris à travers mon exposé, elles seront transgressées, hein, mais que pour des bonnes raisons, bien entendu. Donc, si on en revient maintenant à la science-fiction, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut dater le véritable essor de ce qu'on appelle la proto-science-fiction, c'est-à-dire celle qui était publiée avant que le mot science-fiction ne soit inventé. Le mot science-fiction, il apparaît que dans les années 20 avec Hugo Gernsback. Donc, dans la proto-science-fiction, le point de départ, c'est deux grands auteurs, un français, Jules Verne, l'autre anglais, Wells. Et c'est eux qui incarneront les deux grands courants de l'ASF, hein, qui durent jusqu'à aujourd'hui. Donc, on se concentre sur la France. Je vous parle que de Jules Verne. Alors, il y a eu l'année Jules Verne en 2005, donc même plus besoin maintenant de le présenter, hein. Tout le monde connaît les magnifiques cartonnages des voyages extraordinaires de chez Hetzel. Et un certain nombre des romans donc de Verne, sont ce qu'on peut appeler des romans d'anticipation. Parce que Verne, c'est vraiment c'est une sorte de vulgarisateur scientifique de son époque. Il prend les inventions qui existent à l'époque, les projets qui sont dans l'air, et puis, en fait, il projette ça à très court terme, hein, parce que dans ses romans, c'est toujours contemporain de son époque. Donc, quand on prend, par exemple, 20 000 lieues sous les mers, hein, qui date de 1869, le Nautilus, le sous-marin, ça fait partie de ces engins sous-marins qu'on commence à étudier de manière sérieuse. Hein. On a utilisé, en matière de guerre, on a utilisé un sous-marin pour la première fois, c'est lors de la guerre de sécession, donc 4 ou 5 ans avant, on a utilisé pour la première fois un sous-marin. Donc le Nautilus, c'est un sous-marin très perfectionné, mais c'est quelque chose qui, j'allais dire, est dans l'air, ce qui est le comble pour un sous-marin, mais dans les idées. Évidemment, il faudra attendre un peu plus longtemps pour aller de la Terre à la Lune, hein, qui là est aussi un beau roman de science-fiction. Mais les calculs et tout ce que Verne décrit dedans, c'est vraiment de l'anticipation. Simplement, on a mis un siècle de plus pour pouvoir le mettre en œuvre. Et le seul roman pour moi où Jules Verne est très proche de la science-fiction moderne telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est Le Voyage au centre de la Terre, hein, de 1864, où alors là, il se lâche complètement, homme préhistorique géant du tertiaire, les animaux préhistoriques, la mer intérieure, tout ça, c'est magnifique. Et ça, c'est là, pour moi, le vrai roman de science-fiction de Jules Verne. Les autres, c'est de l'anticipation. Alors, parmi les autres grands auteurs français, on peut citer, bien qu'il soit belge, mais on l'annexe quand même, c'est Roni Aîné, que un certain nombre d'entre vous connaissent certainement à cause de la guerre du feu. Hein. Tout le monde a lu ce très beau roman préhistorique. Mais ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que Roni est un homme qui était un grand écrivain de science-fiction. Alors, il a écrit, par exemple, l'Excipéus, qui a été réédité récemment là, dans la belle anthologie de proto-science-fiction de Serge Lehmann, Chasseur de chimères. Donc, il a écrit un certain nombre de romans comme ça qui sont magnifiques. L'Excipéus, c'est une histoire d'interférence entre des hommes et des extraterrestres. Et qui sont, on est en 1880 et quelques, 84 il me semble, et il décrit des extraterrestres qui sont tellement différents de nous qu'on ne sait pas pourquoi ils atterrissent, ils s'installent, aucune communication n'est possible, on ne comprend rien, les hommes réussissent à les exterminer, et le roman se termine comme ça, on n'a aucune idée de ce qui était venu vers ces êtres, pourquoi ils étaient là, etc. Donc vraiment d'une science-fiction qui, dans son concept, est extrêmement moderne. Pour aussi, un autre auteur incontournable de ces époques-là, donc les années 1880, 90, 1900, qui est très célèbre surtout pour ses dessins, mais on a tendance à ignorer qu'il a aussi écrit, c'est Robida, qui a écrit, qui est un grand écrivain de science-fiction. Il a fait 15 ouvrages que l'on peut considérer comme des romans d'anticipation, dont par exemple dans son roman qui s'appelle Le XXe siècle, c'est un ouvrage visionnaire, et vous voyez que le grand public pour Robida bénéficie du téléphonoscope qui est ici, hein, c'est un écran mural plat qui diffuse les dernières informations du jour et de la nuit, des pièces de théâtre, des cours, des conférences, etc. Donc il a inventé déjà la télévision. Là, c'est dans un autre de ses romans qui s'appelle La vie électrique. Ben, vous voyez un monsieur qui est avec l'équivalent d'un Walkman, ce qu'il appelait le phono-opéragraphe à l'époque. Donc un grand visionnaire, Robida. Et en plus, un artiste de très très grand talent. On est donc avec Robida arrivé à cette époque qui est juste celle de l'avant-première guerre mondiale. Et on constate que d'une manière générale, en France, il n'y a pas grand chose, c'est très mélangé. Il n'y a aucune publication spécialisée. Il faut lire des revues comme Science et Voyage ou Je sais tout, où sont publiés en feuilleton ce qu'on appelle à l'époque du merveilleux scientifique. Et ça perdurera jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en France. Alors, en 1908, par exemple, va paraître un très beau roman de Gustave Lerouge, qui est un grand écrivain populaire de l'époque. C'est Le prisonnier de la planète Mars, qui est suivi de La guerre des vampires, qui est une très belle aventure interplanétaire où un terrien est envoyé par la puissance psychique de tous les fakirs de l'Inde qui sont concentrés. Il projette son vaisseau dans l'espace et il arrive sur la planète Mars où il rencontre un certain nombre de martiens, etc. Très, très beau roman qui se lit encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Un autre grand romancier à côté de Lerouge, c'est Maurice Renard, qui donnera par exemple Le docteur Lerne sous Dieu, qui est une histoire de un peu de docteur Moreau, mais c'est un docteur Moreau à la française, hein, et qui est un roman où il grève des organes, etc. C'est très curieux, c'est de la jolie science-fiction. Il a écrit aussi en 1910 Le péril bleu, qui est un autre très beau roman de science-fiction, où là, on découvre qu'il y a dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre une civilisation, des sortes d'araignées. Très curieux. Bon, la guerre arrive. Alors, je ne vous parle pas d'un certain nombre d'autres romanciers, dont le célèbre capitaine Denrit, qui est aujourd'hui totalement illisible et qui était un vrai capitaine de l'armée, et qui a écrit, alors là, un nombre innombrable de guerres. Grâce à lui, la France s'est battue contre les Noirs, les Jaunes, les Allemands, les Anglais. Enfin, on se bat contre tout le monde dans toutes ces guerres interminables. Mais à l'époque, il avait pas mal de succès. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est totalement illisible. Alors, il mourra d'ailleurs lui-même au front, très vaillamment, en 1916, si je me souviens bien. Après la Première Guerre mondiale, en France, il y a très peu de choses au niveau science-fiction. Et comme l'a fait remarquer Serge Lehmann, on constate qu'en plus, en France, la science, à cause de la guerre, des gaz, etc., la science a une mauvaise presse. Et autant aux États-Unis, c'est la science-fiction conquérante, ce sont les nouvelles frontières de l'espace. En France, la science-fiction française est une science-fiction qui se replie sur elle-même. La science fait peur, ça donne toujours des catastrophes, etc., etc. Donc, et en plus, il faut reconnaître qu'on n'est pas très ouvert sur l'imaginaire à cette époque-là en France. Alors, il y a quand même, on trouve quelques romans de science-fiction dans les petits fascicules qui sont publiés à l'époque par Ferenczi ou par Talandier. Hein, en voilà un, par exemple, Le fantôme volant. Alors vous voyez, ce sont des tout petits fascicules qui tenaient dans la poche et qu'on pouvait lire comme ça dans le train et tout. Donc ça, c'est un fascicule écrit par Maurice Limard, qui est l'un des grands auteurs populaires à l'époque et que nous retrouverons après la guerre. Ça sera l'un des grands auteurs de science-fiction populaire français. Hein. Il faut quand même signaler un autre très beau roman qui paraît en 1938, c'est celui de Jacques Spitz. La guerre des mouches, qui est un roman cataclysmique où les mouches se développent et ce sont elles qui réussissent à prendre en main toute la terre et à éliminer les hommes. Bon. Alors, à côté donc de ces petits romans qui paraissent comme ça, qui font en général à peu près 48 pages, hein, c'est pas très gros. Il existe aussi des fascicules hebdomadaires qui sont consacrés à un héros particulier. Alors, il y en a un au milieu, la plupart, c'est Nick Carter, Buffalo Bill, etc. Donc, rien qui nous intéresse dans notre domaine. Il y en a quand même un qui sort du lot, et c'est là où je me fais quand même un plaisir de transgresser ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des limites. Je ne résiste pas au plaisir de parler des fascicules de Harry Dickson, qui est le Sherlock Holmes américain, d'après ses auteurs. Et donc, c'est un des plus grands auteurs romanciers francophones du XXe siècle, c'est Jean Rey, qui va se mettre à les écrire. À l'origine, c'était traduit de l'allemand. Les textes allemands originaux étaient d'une nullité pire que crasse. Et Jean Rey peinait à les traduire. Et il a dit, écoutez, c'est tellement mauvais, laissez-moi écrire pour le même prix. J'écris l'histoire. Et là, on passe dans le chef-d'œuvre à la place. Donc, il commence à partir du 64. Alors, toujours des couvertures extrêmement colorées. Je suis désolé, hein, vraiment, on distingue très mal les images. Mais donc, des couvertures très colorées, ça c'est le facsimilé d'un des fascicules. Et puis, merci aux éditions Marabout qui, dans les années 60, nous ont fait une réédition intégrale de toutes les aventures de Harry Dickson. Et là, on est plutôt dans le fantastique. Il y a des fois des thèmes qui sont limite science-fiction, mais il y a toujours une explication rationnelle, entre guillemets, à la fin. Et c'est plutôt du fantastique, mais c'est magnifique. Et aujourd'hui encore, ça se lit très bien. Donc, il y a en même temps... donc, vous voyez, au niveau des auteurs et des romans, il n'y a pas grand-chose. Hein, bon, et au niveau des amateurs, en France, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas grand monde non plus. On peut en citer trois qu'on retrouvera plus tard. C'est Georges Gallet, c'est Jacques Bergier, que tout le monde connaît pour Le Matin des Magiciens et Planète, et c'est Régis Bessac. Ce sont les trois, avec Charles-Noël Martin, ce sont les quatre personnes qui, en France, lisent à l'époque la science-fiction américaine. Il n'y en a pas d'autres, hein, on les connaît. Donc, même pas besoin des doigts d'une seule main pour les compter. Hein. Bon. Et Régis Messac, lui, publiera sa première collection spécialisée de science-fiction en 1935. Ça s'appelle Les Hypermondes. Il n'y a eu que trois volumes. Hein, et ensuite, ça sera la guerre. Messac est arrêté, il mourra en déportation. Bergier est arrêté, lui sortira, mais il passera une bonne partie de la guerre en camp de concentration. Donc, vraiment, la période de la guerre, c'est pas très propice, sauf que, quand même, grande exception, c'est René Barjavel qui fait ses débuts pendant la guerre, hein, le grand romancier. Et Barjavel, grand romancier de science-fiction, il publie son très célèbre roman Ravage en 1943, hein, qui est un roman post-cataclysmique. L'électricité disparaît, la civilisation s'effondre. Et puis, en 1944, il publie Le Voyageur imprudent, hein, qui est l'un des grands classiques du voyage dans le temps. Donc, on voit quand même deux très jolies exceptions pendant la guerre. Fin de la guerre, les GI arrivent. Ils ont dans leur poche des bouquins de science-fiction américains. Et donc, la science-fiction va éclater en France. Hein, c'est l'explosion de la science-fiction, parce que là, les amateurs qui ont réussi à survivre à la guerre, comme par exemple Gallet, commencent à s'organiser et en 1951, est créé le Rayon Fantastique, qui est la première collection, donc si on fait l'exception de Messac avant la guerre, mais le Rayon Fantastique, c'est la première grande collection de science-fiction. C'est celle qui va révéler au public français tous les grands auteurs de la science-fiction anglo-saxonne. Hein, par exemple, ça, c'est le numéro 2, c'est Les Rois des Étoiles de Edmond Hamilton, l'un des plus grands classiques du space opéra, grandiose. Tiens, les extraterrestres sont en train de nous envahir. Le plus simple pour détruire leur flotte. Ah, allez, on déplace une demi-douzaine de soleils et on les précipite sur la flotte extraterrestre. Bon, vous voyez, donc, vraiment la science-fiction dans tout son grand délire, magnifique. Mais en même temps, ils publieront dedans Asimov, hein, Fondation, etc. Donc, vraiment une belle collection et qui publiera en plus quelques auteurs français, dont l'un des plus grands auteurs de l'époque, Francis Carsac, de son vrai nom François Borde, qui était un préhistorien, et ils le publieront par exemple Ceux de Nulle Part et un certain nombre des romans de Carsac, qui est l'un des grands auteurs classiques de la science-fiction française. Alors là, on était en janvier 51 pour le démarrage du Rayon Fantastique, et puis quelques mois après, en septembre 51, François Richard, qui travaille au Fleuve Noir, va lancer la collection sans doute la plus célèbre. C'est la collection Anticipation, qui sera une collection de science-fiction populaire extraordinaire. Tout le monde a lu des Anticipations. Ça vendait 70 000 volumes. Un roman, ça se vendait à peu près entre 50 et 70 000. 50 000 à l'époque, c'était pas des grosses ventes. Hein. Et la spécificité d'anticipation, ça sera de ne publier quasiment que des auteurs français. Il y a très très peu de traductions de l'anglais, en plus elles sont mauvaises. Alors il faut dire qu'en plus, il y a les magnifiques couvertures de Branton qui ont fait beaucoup pour le succès. Et donc, vous voyez là la couverture du numéro 1 d'anticipation, donc Richard Bessières, grand auteur de SF populaire français, Les Conquérants de l'Univers, c'est lui qui va commencer. Et puis ensuite, Anticipation publiera Jimmy Gueux, qui sera l'un des grands auteurs maison. Ça, c'est son premier, Le Pionnier de l'Atome, L'Homme de l'Espace, qui a eu le Grand Prix de la science-fiction en 1954. Et Jimmy Gueux, un certain nombre d'entre vous le connaissent peut-être aussi, parce que ça a été l'un de ceux qui ont beaucoup parlé du complot des petits gris, etc. Dans les années 90, il a fait beaucoup d'ufologie, et à travers ses romans, on trouve beaucoup, beaucoup de ses thèmes. Alors, parmi les autres auteurs qu'on peut qualifier de français, il y a Jean Gaston Vandel, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être. En fait, c'est un duo, et on le connaît plus sous le pseudonyme de Paul Kenny, qui a écrit beaucoup de romans d'espionnage qui ont été très très populaires dans les années 60. Hein. Ensuite, il y aura par exemple B.R. Bruce, qui sera l'un des grands écrivains de cette époque-là, un Français, surtout Stéphane Mulle, le grand Stéphane Mulle, qui va écrire plusieurs romans chez Anticipation, dont celui-ci, Homme sans série, qui a donné lieu à un très beau dessin animé, c'était de René Laloux, hein. Voilà, La Planète Sauvage, que certains d'entre vous ont peut-être vu. Donc ça, c'est le roman original d'où a été tiré La Planète Sauvage. Alors, d'autres grands auteurs français de l'époque, chez Anticipation, on retrouve Maurice Lima, dont je vous avais parlé, qui là sort des petits fascicules, donc qui va écrire énormément de romans. Et il y aura aussi le grand Kurt Steiner, alias de son vrai nom André Ruellan, qui va publier un certain nombre de romans classiques, Le 32 juillet, Aux armes d'Orthog, etc. Bon. En 1954, va débuter la troisième grande collection française, qui s'appelle Présence du futur, chez De Noël, et qui fera découvrir principalement à ses débuts certains des grands auteurs américains comme Ray Bradbury ou comme Howard Philip Lovecraft. Hein, et ça grâce à l'influence de Jacques Bergier, entre autres, pour Lovecraft. À côté de ça, dans ces années 50, première partie des années 50, vont apparaître en France les premières revues spécialisées de SF. Et ça, c'est aussi très important parce que c'est elles qui vont marquer durablement tout le paysage de la SF française. Hein. Alors, la première revue à apparaître, c'est octobre 1953, c'est la revue Fiction, dont voilà le numéro 1. Et c'est la revue française qui aura la plus grande longévité, puisqu'elle comprendra 412 numéros, et elle va s'arrêter qu'en 1990. Et elle était liée à un des grands magazines américains qui était The Magazine of Fantasy and Science Fiction, dont elle était en quelque sorte, principalement à ses débuts, une sorte d'édition française. Donc on traduisait des nouvelles américaines qui avaient été publiées dans ce magazine. Mais, pardon, j'y arrive justement, tu anticipes, ce qui est normal. Fiction publiera aussi dès le début quand même des nouvelles françaises et européennes, hein, d'auteurs confirmés. Jean Rey, par exemple, sera publié dans Fiction, mais aussi quelques petits jeunes débutants pour l'époque qui deviendront des grands noms. C'est Gérard Klein, c'est Philippe Curval, c'est Jean-Pierre Andrevon, c'est Daniel Walter. Et un mois après Fiction, donc Fiction c'est octobre 53, novembre 53 apparaît l'autre grande revue qui est Galaxy. Donc voilà le numéro 1. Et Galaxy, alors là, Galaxy va connaître deux périodes. Cette première période, entre novembre 53 et avril 59, c'est 65 numéros. Alors là, c'est complètement hétéroclite. c'est extrêmement mal traduit. Enfin, c'est même un bien grand mot d'utiliser le mot traduction pour ce qu'il y a dedans. C'est un peu du n'importe quoi. Mais ça permet quand même de découvrir un certain nombre d'auteurs américains qui sont des grands auteurs de l'époque, comme Frédéric Pohl. Et Galaxy va aussi publier quelques auteurs français, mais ce seront uniquement ceux qui sont des piliers du fleuve noir. Alors, par exemple, vous voyez, on trouve Jimmy Gueux, qui aura quelques nouvelles. Ce sont d'ailleurs les seules nouvelles de Jimmy Gueux qu'il ait jamais écrites, c'était pour Galaxy. Et puis Galaxy va s'éteindre, donc, comme je vous le disais, en 59, et redémarrera en mai 64 avec les éditions Opta, qui sont des grandes éditions qui vont devenir l'un des acteurs majeurs de la science-fiction française. Et donc ça, c'est Galaxy Nouvelle Formule, qui durera jusqu'en 1977, et qui là, ça sera très riche. Là, on a des vraies traductions, et ils publieront à peu près tout ce qui compte de la science-fiction américaine. Voilà, Silverberg, Farmer, vous voyez, Lackey, Simak, Van Vogt, bon, tous les grands auteurs seront publiés, de l'âge d'or seront publiés dedans. En 1958, va être créée la troisième revue de science-fiction importante en France, qui s'appelle Satellite. Alors ça, c'est le numéro 1 de Satellite. Alors, comme vous le voyez, couverture extrêmement laide. Ça restera l'une des caractéristiques de Satellite. Sans doute les couvertures les plus laides de l'histoire éditoriale française. Bon, mais où il y avait par contre de très bonnes nouvelles, des très beaux romans, et là aussi, que ce soit des Français comme Gérard Klein, etc., ou des Américains, ils vont commencer avec, vous voyez, ils commencent avec Poole Anderson, l'un des grands auteurs américains, etc. Alors ça nous amène donc au début des années 60, où il y a beaucoup de publications en France, mais qui dans l'ensemble se vendent pas très très bien, à l'exception, comme je vous le disais, d'Anticipation Fleuve Noir. Parce que Anticipation Fleuve Noir, ça se trouve dans les kiosques de gare, c'est distribué absolument partout. Et pour vous donner une idée, le rayon fantastique vend en moyenne 10 000. Quand je vous disais, c'est 70 000, entre 50 et 70 000 pour le fleuve à la même époque. Donc le rayon fantastique va finalement disparaître en 1964. Avec ce volume 124 d'un des grands auteurs français de l'époque, qui est Françoise Debonne, Rêve de feu, toujours des choses. Alors là, c'est de la science-fiction très poétique, Françoise Debonne. Et il ne survivra véritablement, parce qu'il y a des tas de petites collections qui ont quelques numéros et puis ça disparaît. Seule Anticipation donc continue dans les années 60 à très bien se vendre, en intégrant des nouveaux auteurs français, comme par exemple ici Gilles d'Argire, qui est le pseudonyme de Gérard Klein, donc un des grands auteurs, là le Sceptre du hasard, un des grands classiques de Gérard. Bon. Alors, les années 60 aussi, je reviens légèrement en arrière, je dois mentionner quand même un héros que à peu près tout le monde a lu, c'est Bob Moran. Bob Moran, créé par Henri Verne en 1954, c'est sans doute la série phare des éditions Marabout, hein, de Verviers. Et donc Bob Moran, c'est pour la plupart de la pure science-fiction. Hein. Alors ça va de la survivance des mammouths dans les géants de la taïga, jusqu'à toutes les rencontres qui là deviennent de la pure science-fiction avec le super vilain qui est l'ombre jaune, hein, Monsieur Ming, où là, c'est des voyages dans l'espace, des voyages dans le temps. Voilà. Bon. Donc, c'est plus de 200 volumes, hein, Bob Moran. C'est absolument magnifique. Et je crois que tout le monde, un jour ou l'autre, a lu au moins un Bob Moran. Donc, autre chose apparaît en France dans les années 60, ce qui a été certainement le joyau de la science-fiction française et ce qui est considéré toujours comme la plus belle collection de livres de science-fiction au monde, toujours inégalée aujourd'hui, récompensée aux États-Unis, etc. C'est une collection absolument prestigieuse et magnifique, c'est le Club du livre d'anticipation, en abrégé le CLA, qui a été créé en 1965 par Jacques Sadoul. Et le volume de lancement, ça a été, que vous voyez ici, c'est la trilogie de fondation de Isaac Asimov. Alors ça, c'était donc des livres reliés, toujours cette comète stylisée sur la couverture, et alors des illustrations intérieures absolument somptueuses avec les plus grands illustrateurs français. Par exemple, ça, c'est une îlot du cycle des épées de Cédrouillet, mais il y a eu aussi Moebius, hein, ça c'est une illustration de l'agent de l'Empire terrien de Poul Anderson, Philippe Casa, naturellement, ça c'est le monde des Ptov de Larry Niven. Donc là, c'est vraiment l'apothéose, le livre de SF, chef-d'œuvre littéraire, chef-d'œuvre graphique, objet d'art. Vraiment la perfection absolue, magnifique. Donc là, le CLA va durer jusqu'en 1980. Malheureusement, sur la fin, ça sera plus tout à fait aussi joli qu'au début. Mais ça reste quand même une collection totale. Voilà. Mais ça reste une collection tirage limité, etc. Ça reste une collection. On n'a jamais rien fait de pareil, où que ce soit. Bon. Alors ça nous amène là dans les années 70. Où on a toujours cette collection Anticipation au fleuve noir. Même formule, on s'est contenté de changer la présentation. On est passé à cette couverture, à ce genre de couverture. Et ils intègrent des nouveaux auteurs comme P.J. Hérault, qui est d'ailleurs présent dans la salle aujourd'hui, hein, avec sa grande série de Cales de Terre. Qui commence c'est Cales de Terre, ça paraît en 84. Alors, en 69, il faut quand même signaler qu'il y a eu une autre collection qui est apparue, qui dure toujours. C'est la collection Ailleurs et Demain, créée par Gérard Klein, qui en est toujours le directeur. Donc là aussi, phénomène unique au monde. Même directeur de collection pendant 40 ans, ça n'a jamais été fait. Et donc, il commence avec le très beau roman de Fritz Leiber, Le Vagabond. Et donc ces couvertures qui seront la caractéristique de la collection, donc ces couvertures métallisées. Bon. Et là aussi, collection dans laquelle Klein publiera principalement des auteurs étrangers, et à peu près il va publier une grande partie de tout ce qui deviendra les classiques contemporains. Un peu plus tard, il va y avoir une autre très belle collection aussi, alors là en livre en format poche. C'est le Masque science-fiction qui va durer de 1974 à 1981, dirigé par Jacques Van Herp, et où là, il y aura un mélange à la fois de tous les auteurs classiques anglo-saxons, mais aussi il va faire découvrir des auteurs comme par exemple Bim Piper, qui était quasiment pas connu en France à l'époque, et qui est un grand écrivain américain. Et le Masque publiera aussi des auteurs francophones. Alors, il y aura des gens connus ou pas connus. Par exemple, ça, c'est Yves Dermez, Via Velpa. Mais ils publieront aussi d'autres De Mutte, etc. Enfin, un certain nombre d'auteurs genrés et tout. Donc, tout ça, ce sont ces années 70. C'est vraiment la période pour la science-fiction en France qui est la plus riche. Il y a énormément de collections. Il y a aussi la collection Pocket. Chez Pocket, il y a la collection du Livre d'or de l'ASF, qui dure de 78 à 87, 46 volumes, qui présentent à peu près tous les grands auteurs français et anglo-saxons, plus des thématiques italiennes. Là, par exemple, j'ai choisi celui-ci parce que je suis un très grand amateur de Philip Joseph Farmer, qui pour moi est un des plus grands écrivains américains. Donc, le Livre d'or de la science-fiction sur Philip Joseph Farmer, qui avait été présenté par Jacques Chambon. Et donc, en même temps, à côté de cette série des livres d'or, il va y avoir aussi toute une collection là, de romans de science-fiction, et ça dure depuis 1977, et ça continue encore aujourd'hui. Les années 70, c'est aussi le début d'une autre collection qui dure toujours, c'est les débuts de la collection chez J'ai lu, de science-fiction et aussi de fantasy, sous la direction de Jacques Sadoul, l'homme qui avait créé le club du livre d'anticipation, collection qui elle aussi dure toujours et qui a publié à peu près tous les livres importants et même certains moins importants de la SF française et de la SF anglo-saxonne. Donc ça c'est très très riche. Alors c'est une époque où vraiment les années 70 où commence aussi au niveau des amateurs de science-fiction. Les amateurs de science-fiction commencent à s'organiser. Il va y avoir les premières conventions qui vont apparaître. Et aussi, vont commencer à être publiés un grand nombre de fanzines, dont certains sont de très bonne qualité. Alors ça, c'est par exemple l'étude Lovecraftienne de Joseph Alterac. Pardon. Il y a Dragon et Microchips de l'œil du Sphinx, qui continue toujours d'être publié. Pardon. Oui, ce que je vous disais donc, c'est que depuis le début des années 80, bon, les auteurs français de science-fiction sont très nombreux, ça s'est beaucoup renouvelé. Et il me semble qu'il y a deux courants qui se sont développés en force depuis les années 80, qui ont commencé par apparaître aux États-Unis, en Angleterre, mais qui ont trouvé un écho absolument remarquable en France. Alors le premier de ces courants, c'est ce qu'on appelle le steampunk. Donc le steampunk, initialement, ça désignait des romans qui se déroulaient dans le cadre du 19e siècle victorien, mais et sans s'embarrasser beaucoup de possibilités scientifiques. Alors c'est l'ordinateur à vapeur, les dirigeables qui ont été inventés bien avant, etc. Ça fait un peu, en plus, ce qui fait aussi souvent le charme du steampunk, c'est que ça fait intervenir aussi bien, ça mélange aussi bien des personnalités réelles qui ont existé célèbres, mais aussi avec des personnages fictifs comme s'ils avaient existé. Donc on retrouve beaucoup le baron Frankenstein, Sherlock Holmes énormément, mais aussi Dracula, etc. Et en France, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès. Hein. Alors, par exemple, vous avez Thomas D. qui a publié L'instinct de l'écarisseur, Vie et mort de Sherlock Holmes. Fabrice Collin et Mathieu Gabory, Confession d'un automate mangeur d'opium. Donc, il y a eu beaucoup d'anthologies et le steampunk a perduré en France alors qu'il commençait à être un peu en perte de vitesse dans les pays anglo-saxons. Bon. Il survit quand même dans les pays anglo-saxons avec la bande dessinée d'Alan Moore, hein, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, ça continue d'avoir beaucoup de succès, mais on constate quand même que ça a tendance à se tasser alors qu'en France, on continue. Et l'autre grand courant qui s'est développé, qui prend une ampleur inégalée depuis quelques années, c'est celui de l'Uchronie. Hein, l'Uchronie, c'est qu'est-ce qui se serait passé si... Alors, de manière intéressante, le premier roman d'Uchronie est français. Hein, c'est le roman de Louis Geoffroy, L'histoire de la monarchie universelle. C'est un roman qui date de 1836. Bon, ça, c'est pas la couverture de l'édition de 1836, malheureusement. Mais donc, où il y a ce que Éric Henriet, qui est le grand spécialiste français de l'Uchronie, appelle un point de divergence, c'est-à-dire que c'est le point de divergence, c'est le moment où l'histoire telle que nous la connaissons bascule. Hein, alors, chez Louis Geoffroy, puisqu'on est en 1836, c'est Napoléon a conquis le monde parce que Waterloo a été sa plus grande victoire, etc. Et donc, beaucoup d'uchronies se développent comme ça, avec des points de divergence qui peuvent être excessivement variés. Alors, en France, bon, Johann Eliot, qui est l'un des grands romanciers chroniques, la lune seule le sait. Là, le point de divergence, c'est à l'époque du Second Empire, il y a des extraterrestres qui atterrissent à Paris. Napoléon III, qui est un grand empereur, comme chacun sait, fait alliance avec eux, il écrase les Allemands, conquiert l'Europe, et à partir de là, c'est bon. Hein, le Second Empire dure à jamais. Mais il y a d'autres points de divergence. Ça, par exemple, Fabien Clavel, autre grand écrivain français, La Cité de Satan, on est... Dans les années 1800, sauf que c'est pas les années 1800, parce que c'est l'Empire romain ne s'est pas effondré. Ce petit agitateur juif de Palestine, il a fait un flop total. Et donc, nous sommes à Lutèce. Et donc très très beau roman. Bon. Autre point de divergence là avec Xavier Mauméjean, autre grand romancier français contemporain. La Reine des Lumières, là, Alexandre le Grand a su trancher le nœud gordien, mais pas de la manière au lieu de le trancher, il l'a dénoué. Donc ça a changé toute l'histoire. Il a conquis les Indes. Et à l'époque à laquelle nous sommes, qui est une époque qui serait dans notre histoire à nous contemporaine des années 30, ben nous sommes toujours dans cet empire gréco-indien où le dernier descendant d'Alexandre règne. Et donc c'est absolument magnifique. Et ce qui est intéressant aussi dans ces uchronies, c'est qu'il faut que l'univers développé soit plausible. Hein, il ne s'agit pas de dire, Napoléon a gagné, puis basta. Non, il faut que tout le reste suive, toutes les conséquences sociales, scientifiques, etc. Il faut que tout se tienne, sinon ça n'offre aucun intérêt. Et l'une des toutes dernières uchronies qui vient de sortir, c'est celle de Laurent Pougeois, qui est là aussi, l'Ange Blond, où là, à nouveau, uchronie napoléonienne. Là aussi, Napoléon a conquis l'Angleterre. Donc, à partir de là, l'Europe est complètement différente. Et là aussi, il en tire toutes les conséquences. C'est un thriller absolument magnifique. Bon. Donc, ça, c'est les uchronies, qui sont toujours un exercice très intéressant. Et pour en terminer, donc, il me semble aussi, quand même, qu'il y a ce qu'on appelle le space opera, c'est-à-dire les grands voyages interplanétaires, intersidéraux, etc., commence à revenir. Il avait un peu disparu à une époque, et chez les Français, ça commence à bien revenir. Alors là, c'est comme pour les uchronies, hein. Je suis très partial, je cite celles que je préfère moi, donc c'est totalement subjectif, mais j'assume. Donc il y a par exemple La saison des singes de Sylvie Denis, qui est l'un des grands auteurs français, et je pense que là, on devrait avoir très bientôt, d'ici la fin de l'année, la suite de La saison des singes. Bon, autre auteur récent, c'est Norbert Merjagnan avec Les tours de Samarante, absolument superbe. Les crimes temporels de Paul Carta, donc, qui nous explique par la science-fiction la disparition d'Agatha Christie. Et donc, crime temporel, c'est la chambre close la plus parfaite qui soit, puisqu'un crime est intervenu. On a assassiné quelqu'un dans une base lunaire où il y a 10 personnes. Hein? Donc, inutile de dire que le mec, il n'a pas pu s'échapper, etc. Donc, comment résoudre ce mystère de base close, de meurtre? C'est très original. Et puis il y a aussi Pierre Bordage, qui est l'un des très grands écrivains français contemporains, qui là est plongé dans les 5 volumes de la Fraternité du Panka. Là c'est le 3e, Frère Calquine, là aussi du grand space opéra, on voyage à travers la galaxie et tout, très très beau. Et plus récemment aussi Frédéric Delmeul, La parallèle Vertov, où là c'est du voyage temporel, etc. Donc, comme vous le voyez, hein, la science-fiction française a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Et ça, c'est vraiment pour notre plus grand plaisir en tant que lecteur. Merci beaucoup.